Vous est-il déjà arrivé de ne plus comprendre une personne que vous admiriez ? De vous disputer avec l'un de vos proches car vous n'êtes absolument pas d'accord sur des sujets de fond ? Certainement. L'avènement d'Internet et des smartphones semble creuser de plus en plus le fossé qui sépare chaque individu. Nous l'avons vu avec l'histoire des Gilets jaunes qui a divisé la France et nous le constatons encore avec les avis divergents autour de la vaccination, par exemple. Les algorithmes des moteurs de recherche et des réseaux sociaux semblent retenir l'objectivité que nous pouvions avoir autrefois en renforçant notre biais de confirmation, c'est-à-dire en privilégiant ou en confirmant nos idées préconçues. Mais qu'en est-il véritablement ? Sommes-nous les pantins de ces algorithmes et subissons-nous vraiment leur influence ou avons-nous notre part de responsabilité ? Je suis Lucie Rondelet, formatrice en rédaction web SEO, et je vais tenter dans cet épisode de répondre à ces questions. Nous sommes confrontés à un problème de taille. Le web va mal. La grande toile qui était censée être un espace de partage d'informations pertinentes est en train de se transformer en gloubi-boulga creux et malsain. Par creux, je pense aux millions de vues générées par des sujets que j'estime creux. Ce n'est qu'un avis personnel, mais par exemple, regarder Nabila prendre son petit déjeuner avec des girafes sur Instagram, je trouve cela creux, dans la mesure où cela ne m'apporte rien au niveau intellectuel. Et cela ne me divertit pas non plus. La photo en question a pourtant reçu 641 743 j'aime à l'heure où j'écris ce script, tandis que Nabila est suivie par plus d'1,5 million de personnes rien que sur Instagram. Ceci n'est qu'un exemple parmi d'autres et je vous invite à vous pencher sur le nombre de tweets, de partages et de j'aime sur des sujets légers et de les comparer à des sujets de fond comme la politique, l'éducation ou encore l'actualité internationale. Je vous ai parlé de sujets creux et malsains. Ce que j'entends par malsain, ce sont les fausses et les mauvaises informations. On parle de désinformation et de malinformation. Souvent, celles-ci sont anxiogènes et donc malsaines, puisqu'elles génèrent chez nous un sentiment de doute, de peur, de culpabilité, le tout sans réel fondement. Et je vous rappelle cette citation de Montaigne : celui qui a peur de souffrir souffre déjà de ce qu'il craint. N'est-ce pas là l'un des nombreux méfaits de l'infox ? Elle entraîne une peur qui nous fait souffrir de ce que l'on craint, alors qu'au final, il n'y a rien à craindre. Ou alors, s'il y a des choses à craindre, ce sont les faits réels, pas les informations des fake news. Revenons au titre de cet épisode. Les algorithmes des GAFAM nous enferme-t-il dans une bulle de subjectivité ? Pour le savoir, nous devons prendre en compte l'écosystème dans toute sa dimension. Mais ce ne sera pas possible aujourd'hui car cela mériterait un ou plusieurs livres sur le sujet. Nous ne devons pas nous concentrer sur l'état de notre consommation de contenu web aujourd'hui, mais sur ce qui a pu mener au web tel que nous le connaissons aujourd'hui. Nous avons, d'un côté, des consommateurs de contenu, les internautes et mobinautes qui lisent, écoutent et regardent ce qui se passe sur le web. De l'autre, nous avons les créateurs de contenu qui préparent les photos, les vidéos, les articles, les épisodes de podcast et bien d'autres. Entre les consommateurs et les créateurs, nous avons les canaux de diffusion, c'est-à-dire les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, les sites web, etc. Et nous avons des algorithmes qui se base sur le trafic, le nombre de likes et de partages sur les réseaux sociaux pour évaluer la pertinence d'un contenu et le mettre en avant s'il plaît à nos semblables. Cela pourrait ne pas poser de problème, à condition que l'être humain ne soit pas attiré naturellement vers des contenus qui font le buzz, qui génèrent des émotions comme la peur, la surprise ou le doute. Car, gardez cela à l'esprit, les algorithmes de Google ou Facebook ne sont ni méchants, entre guillemets, ni manipulateurs. Ce sont de simples machines, certes, des intelligences artificielles, mais qui n'ont pas d'autre prétention que de repérer les contenus qui plaisent pour les mettre en avant et garder les internautes et mobinautes le plus longtemps possible sur leur plateforme. Ça, on peut leur reprocher. Mais contrairement à ce que l'on a tendance à croire, ce ne sont pas vraiment les algorithmes qui nous manipulent. C'est nous, par nos habitudes de consommation du contenu web, qui donnons ces informations à ces géants, par notre navigation, l'acceptation notamment des cookies. Ainsi, ils nous proposent des contenus susceptibles de nous plaire. Alors, je vous entends déjà me dire que si ces mauvais contenus sont mis en avant, c'est parce que les médias ont décidé de nous ramollir volontairement le cerveau en nous proposant davantage de contenus creux que de contenus exigeants. C'est la fameuse question de l'œuf qui fait la poule ou la poule qui fait l'œuf. Lorsqu'on regarde l'histoire de la consommation de l'information, le constat est assez triste et encore une fois, il mériterait d'être plus amplement creusé. Mais globalement, il se trouve qu'après avoir testé une multitude de contenus plus ou moins exigeants intellectuellement, les radios, télévisions et journaux ont dû se rendre à l'évidence. Les séries plaisent plus que les documentaires. Les matchs de foot passionnent davantage que les débats politiques. D'ailleurs, les clashs entre hommes politiques, leurs histoires de fesses et l'état de leurs comptes en banque intéressent bien plus les consommateurs de contenu que leurs programmes politiques. Prenons un exemple tout simple. Si je tape « Programme politique Emmanuel Macron » sur Google, je trouve 16 600 000 résultats. Si je tape « Emmanuel Macron, femme », j'en trouve 33 600 000, soit plus du double. Alors, encore une fois, vous allez peut-être vous dire que ce sont les médias qui préfèrent parler de Brigitte que du programme de son époux. Peut-être. Mais allons faire un tour sur l'outil Answer the Public qui nous montre quelles requêtes sont tapées sur Google au mois de novembre 2021. Pour les non-initiés, sachez que l'outil Answer the Public est utilisé par bon nombre de rédacteurs pour savoir quels sont les sujets qui intéressent le public, justement. Cet algorithme fait ressortir les questions posées sur les moteurs de recherche. Cela permet, en principe, de mieux se positionner sur Google, par exemple, car, en traitant ces sujets, on répond à une attente réelle. Je partage avec vous un petit florilège des questions que se sont posées les internautes en ce début de mois, donc à l'approche des présidentielles, et donc d'un acte démocratique. Ce n'est pas une blague, je vous laisse d'ailleurs faire le test par vous-même, c'est gratuit, et cela ne prend que quelques secondes. Lorsque je recherche les requêtes tapées par les internautes autour du mot-clé « Macron », je trouve « Macron, accent marseillais »,« Macron, action Pfizer », »,« Macron, l'OM », »,« Macron, taille », »,« Macron, signe astrologique », »,« Macron, barbe », »,« Macron, jeune », »,« Macron, tous », »,« Macron, vs, Poutine ». Et nous en avons des centaines comme cela. Je dirais à vue d'œil que moins de 5% des questions que se posent les internautes à propos d'Emmanuel Macron portent sur sa politique. Et pour le coup, ce n'est pas un problème de communication des médias traditionnels, car dès que l'on voit des contenus plus intéressants que la moyenne et qui traitent de sujets plus profonds, de vrais sujets politiques, on ne peut que constater qu'ils sont publiés sur ces fameux médias traditionnels, le plus souvent traité par des journalistes. Ces sujets sont donc traités. Mais alors, pourquoi consomme-t-on autant de contenus creux ou anxiogènes? Si l'on veut faire des raccourcis et tenter de simplifier les choses, on peut répondre simplement en disant que de plus en plus de personnes incompétentes se sont emparées du web, partageant des informations souvent fausses. C'est le cas par exemple de cet homme qui, à la fois fier et tremblant, avait lancé une vidéo extrêmement virale sur les réseaux sociaux en 2020 en annonçant sa découverte. La Covid-19 était en fait un virus, je cite, « breveté et inventé, une attaque biochimique créée par les Français et l'Institut Pasteur ». Il citait des chercheurs du CNRS et de l'INSERM. En moins de 24 heures, sa vidéo a été partagée au moins 96 000 fois et comptabilisé plus de 15 000 likes. Elle s'est échangée via les messageries internes de type Messenger, WhatsApp. Elle a été vue au moins 100 000 fois via les publications sur YouTube. Face à ces accusations farfelues, l'Institut Pasteur fut contraint de publier un communiqué précisant « Cette vidéo conspirationniste est totalement fausse. L'Institut Pasteur n'a pas inventé le Covid-19 ni le virus à son origine, le SARS-CoV-2. L'Institut Pasteur a inventé un candidat vaccin en 2004 contre un précédent coronavirus appelé SARS-CoV-1. » Quand on y réfléchit sérieusement, on en arrive à se demander comment un inconnu, sans formation scientifique, filmé rapidement avec son smartphone, a-t-il pu influencer tant de personnes en à peine 20 minutes? Son avis personnel, sa croyance, allant jusqu'à soumettre l'Institut Pasteur au point de l'obliger indirectement à publier un communiqué pour s'expliquer. Le même institut qui publie sur son site la phrase suivante « On estime à 25 millions le nombre de décès évitables entre 2010 et 2020 grâce au vaccin, soit 5 vies sauvées par minute. » Bien sûr, on me dira que ces chiffres proviennent de l'institut et qu'ils sont donc certainement faux. D'ailleurs, il faut reconnaître que l'institut reste dans le flou. Les mots sont sans doute mal choisis. On estime le nombre de décès évitable, mais au fond, qui doit-on croire si on ne croit plus dans les institutions? Ce qui est étrange, encore une fois, c'est qu'une partie de la population préfère croire un parfait inconnu que l'Institut Pasteur, avec comme argument que ceux qui croient en l'Institut Pasteur sont des moutons ignorants. Mais peut-on croire en l'Institut Pasteur? Est-ce là une croyance, une connaissance ou une simple réalité? Et qu'en est-il de la vidéo de ce monsieur? Partageait-il une croyance ou une connaissance? Cette histoire relève à la fois de la psychologie humaine, de la sociologie, de la culture, de l'amalgame entre croyance et connaissance, mais aussi de l'effet boule de neige des algorithmes des GAFA. Les contenus qui interpellent, car ils semblent nous annoncer quelque chose d'incroyable, un secret révélé, un scandale, un scoop, créent des émotions chez nous, chez chacun de nous. Lorsque nous estimons qu'il y a un doute, une peur, un danger, ou aussi parfois une bonne affaire, nous avons tendance naturellement à réagir en parlant autour de nous, ou avec un emoji, par exemple, content, pas content, un pouce en l'air, ou, plus engagé encore, un partage de contenu. Et c'est comme cela que se diffuse la désinformation. La désinformation est virale parce que nous la transmettons par le biais de nos réactions et aussi de notre curiosité qui nous pousse à aller dans le sens de nos croyances. C'est encore une fois le fameux biais de confirmation. Ces réactions peuvent expliquer en partie les fossés qui se creusent entre les individus aujourd'hui. En partant d'une même information, par exemple la vidéo du monsieur dont je parlais à l'instant, deux groupes distincts vont se former, ceux qui y croient et ceux qui s'étonnent de la crédulité de ceux qui y croient. Quel que soit le groupe dans lequel on se trouve, il est évident que notre navigation web renforcera nos croyances ou nos connaissances. Il est clair que les GAFAM devraient revoir le système de leurs algorithmes. Le problème, c'est que cette méthode fonctionne très bien au niveau économique. Google se base sur l'expérience et les centres d'intérêt de ses utilisateurs pour mettre en avant des contenus sur sa page de résultats. Facebook nous suggère des posts, vidéos et images en fonction de notre navigation, de notre profil d'utilisateur. Amazon nous suggère des produits susceptibles de nous plaire parce qu'ils ont plu à nos semblables ou que l'on a acheté des produits similaires. Ce système s'auto-alimente par nos habitudes de navigation et ce qui nous fait réagir, lesquelles sont renforcées par les suggestions des GAFAM qui vont dans notre sens. Au final, Nous nous enfermons bel et bien dans une bulle de subjectivité qui ne fait que grandir au fil des ans. Les rédacteurs web qui font le choix de se baser exclusivement sur des listes de mots-clés pour rédiger leur contenu au point de mettre de côté la créativité alimentent ce système. Ils réinjectent toujours les mêmes mots-clés dans des contenus qui seront analysés par les algorithmes avant d'être suggérés aux créateurs de contenu, et ainsi de suite. Je vous remercie pour votre attention et serai heureuse de lire vos commentaires. N'oubliez pas de noter le podcast si vous souhaitez m'encourager à continuer à l'alimenter. À bientôt pour un nouvel épisode. Tata.